Gloire au Seigneur. Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains. Nous y venons régulièrement ces temps-ci. Romains chapitre 8, et nous lirons les deux premiers versets dans quelques instants. Ça vous laisse le temps de tourner vos pages. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous parlions du rôle du Père dans le salut. Et nous avons parlé la semaine dernière du rôle de Jésus-Christ. Les trois dimensions de la mort de Jésus à la croix, la dimension juridique, la dimension de rédemption et la dimension de réconciliation. Et aujourd'hui, après avoir parlé du Père, après avoir parlé du Fils, eh bien nous allons donc parler logiquement du rôle et du ministère du Saint-Esprit dans le salut. Peut-être ce ministère nous paraît-il plus difficile à appréhender, c'est un peu comme le Père, parce que lorsque l'on prêche sur le salut, lorsque l'on enseigne sur le salut, c'est avant tout de Jésus-Christ que nous parlons. Mais nous avons vu que le Père a un rôle très important, puisque c'est lui qui a préparé le salut, qui a voulu le salut. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Il a un rôle très important. Et si je dois résumer en quelques mots le rôle du Saint-Esprit dans le salut, c'est de nous communiquer et de nous appliquer ce que Christ a accompli pour nous. Gloire à Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, vous y êtes, Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Béni soit le nom de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je vais commencer par un constat. Et vous savez, je vais peut-être caricaturer, donc forcer le trait, mais il y a quelque chose de vrai malgré tout dans ce que je vais dire. Beaucoup dans nos assemblées perçoivent la repentance devant Dieu et l'acceptation de Jésus comme leur sauveur, comme la fin de toute leur faiblesse, de toute leur carence et de toute leur défaillance. Et alors, nous disons, si tu crois, si tu t'es repenti, tu es alors débarrassé de tout ton passé. Et tu es devenu quelqu'un d'entièrement nouveau et de parfait. J'ai forcé le trait. Malgré tout, nous savons que le péché, les inquiétudes, les défauts de caractère, les souffrances du passé s'accrochent à nous comme la teigne la plus vorace. Et à cause de cela, il y a beaucoup de frustration. À cause de cela, il y a même un sentiment de honte, peut-être même de l'abattement, qui amène vers quoi ? Vers l'amertume, peut-être même vers l'incrédulité, et qui peut conduire certains même jusqu'au retrait de l'Église. Alors il nous faut comprendre ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Devons-nous pour autant réviser notre doctrine du salut ? Certes non. Nous devons continuer de croire dans l'efficacité du sacrifice de Christ à la croix. Il est celui, il l'a dit, qui a tout accompli. Mais il convient de comprendre ce que représente ce tout accompli de Jésus à la croix. Ce tout accompli, j'y reviendrai dans quelques instants, nous introduit, en tout cas, dans une nouvelle relation avec Dieu, fondé sur la réconciliation. Ça, c'est le grand tout accompli de Jésus. Il nous a réconciliés avec Dieu sur la base de son sacrifice. Et deuxièmement, le tout accompli de Jésus nous donne, et c'est le point principal de cet enseignement ce matin, nous donne accès aux bénédictions de Dieu. Et notamment, nous donne accès au ministère du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'interviendra dans nos vies qu'à partir du moment où nous sommes réconciliés avec le Père grâce au sang de Jésus-Christ. Alors nous le comprenons, et c'est ce que nous allons voir, qu'il est important de connaître le rôle du ministère du Saint-Esprit dans le salut. Trop souvent, il est négligé, voire ignoré. Comment ça ? Le Saint-Esprit a quelque chose à voir dans mon salut ? Parce que pour nous, pentecôtistes, nous associons le ministère avec, bien sûr, le Saint-Esprit, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la Pentecôte. Mais avant de nous rendre, de nous équiper, le Saint-Esprit veut nous rendre capables intérieurement. À quoi servent les dons si les gens qui reçoivent les dons sont incapables de s'en servir? Et il est donc important que le Saint-Esprit fasse son ministère, son œuvre dans nos vies. Et en cela, il s'inscrit dans le prolongement du ministère de Jésus. Tout commence à la croix, mais la croix n'est pas une fin. La croix, ce n'est qu'un commencement vers une œuvre encore plus grande. Alors, la mission du Saint-Esprit, c'est donc de rendre pratique, de rendre concret le salut de Jésus-Christ dans nos vies. Mon premier point ce matin fait référence au verset premier de cette lecture de Romains 8. Et ce premier point, c'est comprendre la finalité du ministère de Jésus. Pourquoi donc Jésus est-il venu sur la terre ? Quand il meurt à la croix, il s'écrit « Tout est accompli ». Donc ça veut dire que pour lui, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Quelle était donc sa mission ? Il nous faut le comprendre. Eh bien, je crois que nous avons la solution là dans ce verset premier de Romains 8:1 où Paul nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre et voilà pourquoi il s'écrit « Tout est accompli ». C'est qu'il a tout fait pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Autrement dit, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Sa mission était de nous placer sur le bon terrain. Autrefois, nous étions séparés de Dieu, en inimitié avec Dieu, mais par le sacrifice de Christ, nous sommes maintenant placés sur le bon terrain. Et c'est un terrain qui est imprégné du sang de l'agneau. Et c'est un terrain sur lequel Dieu va commencer à entreprendre quelque chose de nouveau dans notre vie. Il ne pouvait pas le faire avant, parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait le témoignage du sang. Mais quand le sang de Christ a coulé et que nous venons par la foi sur ce terrain, alors nous allons commencer quelque chose de nouveau. Nous allons découvrir le ministère du Saint-Esprit. Je voudrais maintenant, dans mon deuxième point, situer le ministère du Saint-Esprit par rapport à celui de Jésus. Là, il y a quelque chose de très important. Il faut comprendre, premièrement, que le Saint-Esprit n'agit pas indépendamment de Jésus. Au contraire, son ministère découle de ce que Christ a accompli. Et Jésus a dit lui-même dans Jean, chapitre 16, verset 15, « Il prend de ce qui est à moi et nous l'annonce. Il prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. » Il agit donc dans le prolongement de Jésus. Il n'agit pas en premier. On a coutume de dire, par exemple, le sang avant l'huile. On fait référence au tabernacle, où d'abord il y a eu l'aspersion du sang avant qu'il y ait l'onction d'huile. On dit aussi la Pâque avant la Pentecôte, la croix avant la chambre haute, l'agneau avant la colombe. Si vous cherchez le ministère du Saint-Esprit, je vous donne un conseil, cherchez d'abord Jésus-Christ. Et c'est là une grave erreur que certains ont commise ces dernières années. C'est de rechercher l'expérience spirituelle sans d'abord rechercher Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas aller directement à la chambre haute. On doit d'abord passer par la croix du Golgotha. Le Saint-Esprit agit toujours en liaison avec le Fils. Regardez la façon dont Paul écrit les choses dans Romains 8, 2. Il prend soin de préciser la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en Jésus, il est caché en lui et il est révélé à ceux qui ont cru en Jésus. Alors, d'un certain point, c'est vrai, je parle du Saint-Esprit dans le salut, mais le Saint-Esprit n'est pas directement à l'œuvre à la croix. Bien que l'Épître aux Hébreux dise que c'est par l'Esprit éternel que le Christ a été conduit à la croix, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné sa vie à la croix. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas expier nos péchés parce qu'il n'a pas de corps. Mais rappelez-vous, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus dit « Tu m'as formé un corps ». Mais le Saint-Esprit est esprit, il n'a pas de corps, il ne peut pas expier nos péchés. Le Saint-Esprit ne peut pas nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes réconciliés. Le Saint-Esprit, qui est un esprit, n'a pas de corps et n'a pas de sang. Donc ni l'expiation, ni la réconciliation ne sont le fruit du ministère du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Jésus. Mais là, caché en Jésus, à la croix du Golgotha, rappelez-vous, cette lance qui vient percer le côté du Seigneur, duquel jaillit cette source d'eau vive, ce sang, nous parle du ministère du Saint-Esprit qui était en lui. Et de la croix, le Saint-Esprit va commencer à agir. Agir pour nous conduire dans toute la vérité. Agir pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, car telle est la mission que le Père a donnée au Saint-Esprit. Il dit au Saint-Esprit, sur la base du sacrifice du Fils, tu vas transformer ceux qui ont cru à son image. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Christ est mort pour nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Pour résumer ce point, nous dirons qu'il n'est pas possible d'accéder à ce que l'Esprit Saint veut faire en nous, si d'abord nous n'avons pas expérimenté ce que Jésus a fait pour nous. C'est évident. Mais en même temps, il est aussi nécessaire de ne pas se contenter de ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous faut aller jusqu'au bout du processus en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et ça fait partie aussi de l'Évangile. Et ça fait partie aussi du salut. Donc, après avoir parlé de la finalité du ministère de Jésus, d'avoir situé le ministère du Saint-Esprit par rapport à celui de Jésus, je voudrais m'arrêter maintenant, c'est mon troisième point, sur un aspect particulier du ministère du Saint-Esprit. Dans quelques semaines, je continuerai en parlant de la régénération et de la vie, du renouvellement que le Saint-Esprit nous apporte. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter particulièrement sur ce verset 2 et un verbe très important que nous trouvons ici sous la plume de l'apôtre Paul, « affranchi ». Le Saint-Esprit a premièrement un ministère d'affranchissement. En Jésus, Dieu nous pardonne. Devant Jésus, Dieu nous déclare juste. Dieu nous ramène dans sa présence. Mais il sait que ceux qu'il a déclarés justes parce qu'ils ont cru ont besoin de beaucoup de changements. Et nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Nous sommes venus à lui tels que nous étions, afin que Dieu change tout et qu'il nous conforme à l'image de son Fils bien-aimé. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement. Ce qu'on appelle aussi la sanctification. Mais pour que cela puisse se faire, il faut d'abord que le Saint-Esprit nous affranchisse. Et j'insiste sur le verbe affranchir, et je préfère ce verbe à celui de délivrer, parce que le verbe délivrer fait référence, bien sûr, aux puissances occultes. Mais le verbe affranchir va beaucoup plus loin. Il englobe, bien sûr, la délivrance, mais le verbe affranchir va nous parler d'autres besoins de notre vie. Des besoins qui sont tout aussi importants que ceux qui ont besoin d'être délivrés. Alors notamment ici dans Romains 8, 2, vous voyez le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de deux choses. Premièrement du péché. Il nous a affranchis du péché et de son pouvoir sur la chair, car nous savons qu'à travers le péché, notre chair est opprimée. Et puis il nous délivre aussi de la mort. Et notamment dans le langage de Paul, l'idée de la mort, c'est aussi l'idée de la manifestation de la religion, car le commandement mène à la mort. Alors mes frères et sœurs, parlons honnêtement, et ce matin, quelque part, c'est un message d'évangélisation que je vous adresse, non pas un message, c'est vrai, pour des gens qui ne connaîtraient pas Jésus, mais un message d'évangélisation pour des chrétiens. Oui, mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens dans les églises ont besoin d'être évangélisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'œuvre du salut. Beaucoup de chrétiens, malgré des années de vie chrétienne, de foi, d'espérance, continuent de traîner quoi ? Toutes sortes de péchés, nous l'avons dit, mais aussi des addictions, des dépendances, mais aussi des oppressions et des souffrances intérieures, des blessures qui sont là. Pourtant, ils croient en Jésus. Pourtant, ils ont demandé sérieusement pardon au Seigneur. Ils ont même lutté de toutes leurs forces, souvent à travers les commandements, s'imposant toutes sortes de rigueurs, de disciplines. Mais malgré tout, ils restent toujours dans une situation d'échec. Ils ont besoin d'être affranchis par le Saint-Esprit. Quelques versets avant ce chapitre 8, donc à la fin du chapitre 7, Paul nous parle de cet homme où il nous ressemble tellement, il me ressemble. Vous savez, c'est cet homme qui en lui a cette loi qui le dispose à vouloir faire le bien. Il veut faire le bien, seulement il y a un problème, c'est qu'il y a une autre loi dans son corps. Et cette loi le pousse à faire le mal. Et quand il veut faire le bien, finalement c'est le mal qu'il fait. Mais c'est un homme qui veut faire le bien parce qu'il a conscience de la loi de Dieu. Et c'est un homme qui ne supporte pas sa situation. Et ça, c'est un point sur lequel je veux m'arrêter, très important. C'est un homme qui, peut-être après bien des combats, bien des années, bien des efforts, est capable toujours de se tourner vers Dieu et de lui dire « Misérable que je suis !» Qui me délivrera du corps de cette mort ? Mes frères et sœurs, j'espère qu'aujourd'hui, quelles que soient vos luttes, vos combats, vos souffrances, vous êtes toujours capables de vous tourner vers Dieu en disant « Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera ?» Parce que la pire des choses qui puissent arriver à un frère, à une sœur, c'est de capituler. Ou même de se compromettre. De trouver un espèce d'équilibre entre la piété, entre la foi, la sainteté, et puis une espèce d'obligation de tous les jours, de vie de tous les jours. N'acceptez pas, ne capitulez pas. Mais même si vous êtes par moments harcelé, pressé, même s'il vous arrive de tomber, je vous en conjure, soyez toujours de ceux qui crient au Seigneur pour leur délivrance. Alors vous vous retrouvez peut-être dans cette situation. Et il faut reconnaître que cette situation dans laquelle nous retrouvons cet exemple de cet homme est pire encore que celle qui était autrefois la nôtre. Parce qu'autrefois, nous étions dans le monde, nous étions pécheurs, mais nous n'avons même pas conscience d'être pécheurs. Aujourd'hui, notre conscience nous dit que nous sommes pécheurs, mais plus encore que notre conscience, il y a le témoignage de la parole. Il y a le témoignage du sang de Jésus. Il y a le témoignage du Saint-Esprit. Et nous savons que lorsque nous péchons, lorsque nous cédons à nos passions, nous attristons le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose encore qui pèse davantage sur nos vies. Alors, quelle est l'origine de cette situation ? L'origine de cela, c'est le non tout accompli de Christ en nous. Mes frères et sœurs, c'est une chose que Christ ait tout accompli pour nous. Mais c'en est une autre, que le tout accompli de Jésus soit accompli dans nos vies. C'est là qu'est le besoin de tant et tant de chrétiens parmi nous. Mais avons-nous laissé le temps au Saint-Esprit d'agir en nous ? Trop souvent, nous croyons donc qu'à travers une prière de repentance, une confession de foi, peut-être une imposition des mains par un pasteur, répondre à un appel, lever la main, quelques conseils, alors ça y est, tout est réglé. On se dit les uns aux autres, il nous a été dit, ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors normalement, tout est réglé pour toi. Mais nous savons que ce n'est pas ainsi. Alors la Bible aurait-elle tort ? Non, certainement pas. Mais je vous invite à considérer comment Paul écrit ce verset. Il commence par un « si ». Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un en Christ, c'est d'abord quelqu'un en qui Christ, par son Saint-Esprit, a agi. Si le Saint-Esprit agit en nos vies, alors c'est sûr, toutes les choses passées, anciennes sont passées, et toutes choses sont redevenues nouvelles. Mais il faut pour cela que le Saint-Esprit ait agi dans nos vies. Avons-nous laissé le temps au Saint-Esprit d'accomplir son œuvre d'affranchissement en nous ? Je vous dis souvent que la place du chrétien n'est pas à la croix. Nous ne sommes pas là pour être au pied de la croix, car nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais malgré tout, je m'interroge de savoir si nous avons passé assez de temps au pied de la croix quand il le fallait. Je m'interroge de savoir si la personne qui vous a baptisé, nous a baptisé, nous a laissé assez de temps au fond de l'eau. Reste-y un moment pour que ceux qui meurent. Et que tu relèves et que tu sois vraiment quelqu'un de nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire ? Se repentir, c'est une chose importante. Exprimer notre foi, confesser notre foi, c'en est une autre. Mais ce n'est qu'une base qui nous amène sur le terrain de la réconciliation avec Dieu. Mais c'est une base qui appelle un autre ministère, celui du Saint-Esprit. Et là, de la croix, l'Esprit de Dieu se manifeste, caché en Jésus. Par notre confession de foi, il se manifeste, il se révèle. Et maintenant, il faut qu'il agisse dans nos vies. Il veut nous renouveler. Mais d'abord, il faut qu'il nous affranchisse. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Alors oui, nous parlons de délivrance. Mais il nous faut parler aussi d'affranchissement et surtout d'affranchissement. Affranchissement de quoi ? Affranchissement de la puissance du péché. C'est une chose que d'avoir confessé nos péchés, d'être pardonné de nos péchés. Mais Jean nous dit aussi d'être purifié de nos péchés. Et nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour venir dans nos vies et arracher de nos vies les racines les plus ancrées du péché, de nos passions, de nos pulsions. Nous avons besoin que le Saint-Esprit change nos mentalités. Se repentir, c'est changer de direction, c'est changer radicalement. Mais il y a ce que je déclare et il y a ce que le Saint-Esprit va faire en moi. Nous vivons dans une génération qui ressemble tellement à celle de l'apôtre Paul, une génération païenne. Nous sommes une génération sans Dieu. La plupart des gens qui maintenant se tournent vers le Seigneur n'ont aucune connaissance de l'Évangile, n'ont même plus fait le catéchisme qu'autrefois les gens faisaient. Et pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont été conditionnés, marqués par une culture qui est une culture de rejet de Dieu, une culture de rejet de l'Évangile, une culture qui met l'homme en avant, qui met le plaisir de l'homme, le plaisir à assouvir instantanément. Et ce n'est pas simplement par une prière de repentance que les mentalités vont changer. Il faut que le Saint-Esprit change notre façon de penser. D'ailleurs, il est celui qui renouvelle notre intelligence. Et il faut qu'il fasse cette œuvre, il faut qu'il nous travaille. Il est aussi celui qui va nous affranchir des passions, des pulsions, des dépendances, des oppressions. Que ces chaînes qui sont là, qui nous entravent, qui entravent tant de chrétiens, qui les empêchent de vivre pleinement leur foi, qui les retiennent toujours en arrière, loin de ces progrès que le Seigneur veut leur donner. Le Saint-Esprit doit passer dans nos vies pour nous affranchir. Vous comprenez que je suis en train de parler, et je le sais, à des frères et sœurs, à des gens qui sont sur le terrain du sang de l'agneau. Peut-être à toi, mon frère, toi, ma sœur, même avec beaucoup d'années d'expérience de vie chrétienne, aujourd'hui, tu as besoin d'être affranchi. Mais je vais vous dire, nous avons tous besoin d'être affranchis, d'être toujours libérés davantage de nous-mêmes, afin que le Saint-Esprit puisse nous renouveler encore plus. Et puis, le Saint-Esprit doit aussi nous affranchir de nos souffrances les plus profondes, de ces blessures que l'on ne voit pas à l'œil, parce qu'elles ne sont pas physiques, mais elles concernent notre âme. Blessures de l'enfance, blessure de la vie. Et le Saint-Esprit est un baume qui vient sur nos vies. Mais laissons-le agir. Laissons-le agir dans nos vies. Jésus l'a proclamé. Vous serez, il insiste, réellement libre. Et s'il insiste sur le mot réellement, c'est parce qu'il y a vraiment une liberté, non pas simplement une liberté à contempler, mais une liberté à vivre. Mais il nous faut pour cela la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, mes frères et sœurs, je voulais insister sur ce matin, comprenez-le, ce n'est pas pour absolument pas pour réduire l'importance du sacrifice de Christ, mais de comprendre quelle est l'œuvre du Seigneur. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père sur la base de son sacrifice à la croix du sang versé. Il nous place sur le terrain de la réconciliation. Mais ce terrain, c'est un peu comme le tour du potier sur lequel on va placer nos vies. Et alors Dieu, par la parole, par l'eau, va commencer à façonner nos vies. Nous ne voulons pas rester une masse d'argile. Nous voulons devenir ce vase à la gloire du Seigneur de notre Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Cet esprit est caché en Jésus et il est révélé, découvert à ceux qui croient. Mais mon frère, ma sœur, avons-nous laissé le Saint-Esprit agir en nous comme il le veut? Pas simplement au moment de notre conversion, mais encore aujourd'hui. Il a encore une œuvre à faire en nous. Il y a encore des chaînes qui doivent tomber. Il y a encore des forteresses qui sont en nous qui doivent tomber. Il y a encore des raisonnements, des façons de concevoir. Il y a même des commandements qui doivent tomber pour enfin rentrer pleinement dans le renouveau que le Seigneur veut nous apporter ce matin. Béni soit son nom. Laissons le Saint-Esprit agir. Laissons-le s'occuper de nos vies. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Mais il est capable de manifester toute sa puissance en un instant. Bien sûr, loué soit Dieu pour toutes les fois où il agit immédiatement. Parce qu'il y a des affranchissements qui sont instantanés. Et plusieurs pourraient nous dire instantanément, j'ai été délivré du tabac, de ceci, de cela. Et puis il y a d'autres choses, ça va prendre du temps, mais c'est aussi un affranchissement à travers lequel notre foi est édifiée. Et le Saint-Esprit nous amène de progrès en progrès. je peux dire, Seigneur, il y a encore des choses dont tu dois me libérer dans ma vie. Je veux être réellement libre. Parce que si je suis réellement libre, alors je serai réellement renouvelé tout entier à l'image du Seigneur. Seigneur, je ne veux pas m'enlever du terrain de la réconciliation. Je ne veux pas dire, Seigneur, ok, tout est bon pour moi, mais je veux être, Seigneur, toujours cette masse d'argile que tu façonnes. Façonne-moi. Façonne-moi à l'image de Jésus. Et mes frères et sœurs, ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le salut. Le salut, ce n'est pas simplement confesser le nom de Jésus à la croix, mais c'est une histoire qui nous conduit jusqu'au trône de Dieu et jusque dans les cieux. Un jour, lorsque nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Alors nous rentrerons dans le parfait. Mais jusque-là, nous voulons persévérer. Nous ne voulons pas dire, Seigneur, eh bien, attendons d'être là-haut dans le ciel, puisque de toute façon, le parfait, ce n'est pas sur terre, mais nous le recevrons en un instant. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Dieu veut te libérer. Il veut t'affranchir. Et c'est le Saint-Esprit qui l'envoie pour faire cela. Je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, toi qui aimes Jésus de tout ton cœur, toi qui crois dans le sacrifice de l'agneau, qui attache ta vie à marcher dans des voies de justice et de vérité, mais qui a besoin ce matin de goûter à la puissance du Saint-Esprit. C'est pour toi qu'il a été envoyé. Ce n'est pas pour le monde, c'est pour toi, parce que tu as cru dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia.